tu le crois, ça veut dire que tu le poursuis. Ça veut dire que tu en es conscient. Est-ce que tu es conscient que Dieu a un plan pour toi, qu'il a un plan pour moi? Sommes-nous conscients de cela? Franchement, vivre sans savoir, sans le savoir, sans savoir où on va, sans but, prisonnier de la même routine, c'est la pire des choses. Méditons ces quelques lignes écrites par Tony Evans. Jour après jour, vous sortez du même lit et vous vous dirigez vers la même salle de bain pour regarder le même visage dans le même miroir. Puis vous vous dirigez vers la même garde-robe pour y choisir les mêmes vêtements avant d'aller vous asseoir à la même table du petit déjeuner pour y manger le même petit déjeuner. Ensuite, vous entrez dans le même garage où vous montez dans la même voiture pour descendre la même route qui mène au même travail où vous vous exercez depuis toujours. Là, vous travaillez toute la journée pour toujours le même salaire à côté de ces mêmes collègues, encadrés par le même directeur, puis vous rentrez dans la même voiture, vieille voiture et reprenez cette même route de retour jusqu'à cette même maison où vous habitez depuis toujours. Une fois à la maison, vous vous asseyez sur cette même chaise pour regarder cette même télévision. À la fin de la journée, vous retournez à ce même vieux lit et vous dormez de la même manière qu'avant, afin de pouvoir vous lever le lendemain matin et de recommencer la même vieille routine une fois de plus, et cela jour après jour. En résumé, pour certains diraient métro, boulot, dodo. Vivre sans but, prisonnier de la même routine, c'est la pire des choses. Exister pour exister, c'est la pire des choses. Et Dieu, lui, il a un plan pour ta vie. Voici son plan pour toi et pour moi. Ressembler à Jésus-Christ. Tout le monde me regarde. Ah bon? Le dire comme ça ne paraît pas un projet excitant, n'est-ce pas? Et pourtant si. Un texte de la Bible va nous aider à le comprendre. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Pas mal de personnes le connaissent par cœur. Romains 8, verset 28 et 29. Nous savons en outre, nous savons du reste, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? De savoir que toute chose concourt à notre bien. C'est une promesse à couper le souffle qui s'applique à absolument tout ce qui concerne la vie du croyant. En fait, Dieu s'est engagé à nous bénir tous les jours. Regardons ensemble cette promesse. Premièrement, la certitude de ce bien. Nous savons du reste, nous savons en outre, le chrétien, même face aux pires épreuves et souffrances de la vie, sait quelque chose et il est certain de quelque chose. Et il le sait avec certitude. Le chrétien sait pertinemment que Dieu contrôle sa vie. Cette certitude est quelque chose que tout chrétien peut affirmer, peu importe, quelles que soient les circonstances, les épreuves. Et pourquoi? Car l'Esprit prie pour nous dans nos faiblesses. On trouve cela dans un des versets dans le chapitre 8. L'Esprit prie pour nous dans nos faiblesses face aux ravages du monde. Et c'est lui qui met en nous cette certitude que Dieu contrôle vraiment tous les événements de notre vie, même ceux que nous percevons comme étant les pires. Deuxièmement, l'étendue de ce bien. Que toute chose concourt au bien. Le toute chose est réellement un terme complet, entier. Il n'y a aucune limite à ce terme. Tout ce qui existe dans le ciel ou sur la terre, dans la vie, concourt au bien pour nous. Tant le bien que le mal. Alors ça c'est surprenant, mais même le mal. Alors ceci ne veut pas dire que Dieu va systématiquement empêcher que de mauvaises choses arrivent à ses enfants. Dans le texte, nous avons quelques éléments qui nous aident à comprendre ce que Paul veut dire par « toute chose ». En fait, l'ensemble du contexte avant et après Romains 8, versets 28 et 29, est très douloureux. C'est pourquoi Romains 8, 28 est ici. Nous avons besoin d'encouragement et d'espérance, parce que avant et après ce verset, la perspective de la vie chrétienne sur cette terre est sombre. Le verset 17 dit que nous allons être glorifiés avec Christ si nous souffrons avec lui. Mince alors. Le verset 18 dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Les souffrances. Le verset 20 affirme que la création, y compris nous, est soumise à la vanité. D'autres traductions disent au pouvoir de la fragilité. Le verset 21 dit que la création est dans la servitude de la corruption. Le verset 23 dit que, même remplis de l'esprit, les chrétiens gémissent avec la création déchue, attendant de vivre pleinement l'adoption, la délivrance de notre corps faible, malade et mourant. Le verset 24 dit que nous avons été sauvés en espérance, donc notre salut total est invisible, est encore dans l'avenir. Nous l'attendons. Pas étonnant que nous gémissons. Et puis le verset 35 est bien pire. Il dit qu'il y a tribulation, détresse, persécution, famine, danger, épée. Ce que cette promesse nous promet, c'est que Dieu prendra toutes ces choses, aussi terribles et horribles qu'elles soient, et ultimement les transformera en bénédiction. J'ai entendu un petit amen de loin. Quel genre de choses positives Dieu utilise-t-il pour notre bien? Alors, on pourrait dire 6 choses, on pourrait en mettre encore plus. Premièrement, Dieu lui-même nous est donné pour notre bien. Le Père. Jésus nous est donné pour notre bien. Le Saint-Esprit nous est donné pour notre bien. Les bénédictions matérielles nous sont données pour notre bien. Santé, argent, etc. Les anges nous sont donnés pour notre bien. L'Église nous est donnée pour notre bien. Et quel genre de choses négatives Dieu utilise-t-il pour notre bien? Des souffrances, comme nous l'avons vu dans le texte, persécution, châtiment, épreuve, même détresse naturelle. Il y a aussi la tentation. Bien sûr, Dieu ne tente personne. Mais la tentation devrait faire de nous des personnes qui prient davantage, qui cherchent davantage l'aide de Dieu, qui passent du temps à l'écouter, à l'adorer, à l'espérer, toujours plus en lui. Continuons les points du texte. Troisièmement, les bénéficiaires de ce bien, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance. Paul décrit les bénéficiaires par 3 termes distincts, qui décrivent la même personne, le chrétien. Ceux qu'il aime, ceux qui sont appelés selon son dessein, et ceux qu'il a connus d'avance. Le chrétien est une personne caractérisée par l'amour. Le chrétien est devenu enfant de Dieu parce que Dieu l'a appelé au salut. Et enfin, si nous venons à Dieu, c'est parce qu'il nous a connus d'avance. Il a agi en nous par son esprit, afin de nous attirer à lui. Quatrièmement, la source de ce bien, selon son dessein. La source de cette promesse, en un mot, est Dieu lui-même. Cinquièmement, le but de ce bien, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans quel sens pouvons-nous conclure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tout chrétien? La réponse se trouve ici au verset 29. Ces choses nous aident à être semblables à l'image de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Mes amis, nous serons un jour dans sa présence, sans tache, ni ride, ni péché. Aujourd'hui, toutes les choses dans nos vies concourent au bien, car elles nous préparent et nous sanctifient en vue de ce grand jour, ce jour glorieux où nous serons devant Jésus-Christ. Sixièmement, le résultat de ce bien, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Cette phrase veut simplement dire qu'à la fin de tout, nous serons comme Christ. Il réaffirme la même chose. Et c'est lui qui sera glorifié le plus haut à cause de son œuvre de salut dans nos vies. Voilà en quelques mots ce que veut dire Romains 8, chapitre, enfin versets 28 à 29. Mais j'aimerais revenir sur ce premier point. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, aimer Dieu ? Aimer Dieu, c'est être touché par qui il est, touché par sa personne. C'est l'aimer par-dessus tout ce que tu peux aimer, au point de te soumettre à Dieu. Aimer Dieu n'est pas dans son essence l'amour pour ses dons. Tu m'as donné ça, donc je t'aime. Ses dons comme le pardon des péchés, échapper à l'enfer, recevoir la vie éternelle, etc. Si tu aimes Dieu, tu apprécieras ses dons et tu seras reconnaissant pour eux parce que tu ne pourras pas avoir une relation rétablie avec Dieu sans eux. Dieu te donne la possibilité de vivre la relation avec lui. Mais aimer Dieu, c'est chérir Dieu lui-même au-delà de ses dons. C'est chérir Dieu lui-même au-delà de ses dons. Vivre l'intimité avec lui non-stop. Aimer Dieu a des moments d'intensité et des moments de faiblesse. Comme dans toute relation d'amour. Mais dans ceux qui sont sauvés, qui appartiennent à Dieu, l'amour de Dieu est ce qui les définit. C'est la condition normale du cœur du chrétien. Il aime son Dieu, que ce soit fort ou des fois faible. Ainsi, Paul ne dit pas « tout concourt au bien, une partie du temps au bien de ceux qui ont un amour fort pour Dieu » et puis de l'autre côté, « tout concourt au mal une partie du temps lorsque ton amour pour Dieu est faible. » Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dans le sens qui caractérise, ce qui caractérise le chrétien. Que son amour, des fois, soit faible ou fort, toute chose continue à concourir à son bien. Si tu es chrétien, si ton cœur a été amené de la haine à l'amour pour Dieu, toute chose travaille pour ton bien tout le temps. J'ai bien dit tout le temps. Il y a une vérité qu'il te faut entendre, réentendre et accepter. Dieu t'aime. À la croix, Dieu a montré un amour tellement immense. Jésus, pieds et mains percés, cloué sur une croix à cause de toi, à cause de moi, à cause de tout le mal que nous avons fait. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Et il a décidé une fois pour toutes de te bénir. Voilà son plan pour toi. Tu dois accepter cette vérité. Y croire et t'en réjouir tous les jours de savoir que Dieu t'aime et s'est engagé à te bénir tout le temps. À faire de façon à ce que tout ce que tu vis est pour ton plus grand bien. C'est pas génial ça ? Toutes choses concourent à notre bien. Même les choses, les mauvaises choses, dans un but bien précis, nous rendent semblables à Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas comprendre la chose d'une manière tournée différemment. En tout cas, de croire que Romains 8, chapitre 28, verset 28 à 29, enfin, le chapitre 8, verset 28 à 29, il m'encourage donc à la passivité. Je laisse faire Dieu, le Seigneur va faire quoi. Ou dans l'autre sens, De toute façon, que je continue à pécher, de toute façon, même quand je pêche, toute chose concourt à mon bien, quoi. Le texte ne dit pas du tout ça. Il concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette promesse est comme un coup de trompette, un coup de tonnerre qui te propulse en avant pour que tu continues à grandir dans ton amour pour Dieu, dans ton intimité avec lui. Cela t'amène à passer du temps avec lui, à l'aimer, au point de te sacrifier pour lui et pour les autres. Peu importe ce qu'il en coûte, parce que ce qu'il en coûte travaille tous les jours, à tout moment, pour ton bien. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Ressembler à Christ. N'oublie donc jamais, dans ta vie de tous les jours, que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt à ton bien, pour que tu ressembles toujours un peu plus à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ressembler à Jésus-Christ? En fait, le texte nous donne déjà la réponse. En un mot, aimer. Aimer. Aimer au point de nous sacrifier pour les autres. Cet exemple de Jésus-Christ est l'exemple suprême. Il s'est donné pour nous en sacrifice. Ne plus être centré sur nous-mêmes, mais considérer les autres et rechercher leur bien, faire tout notre possible pour que les autres soient bénis, épanouis en Dieu. Vous savez, à ma naissance, mon père est parti de la maison à cause de l'alcool, de l'infidélité, et pire encore, pacte avec Satan, sorcellerie. Un jour, il a dit à ma mère, il y a une puissance négative dans cette maison, je ne peux pas rester. Et il est parti. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais un enfant très, très, très insolent envers ma mère. Pas simplement envers ma mère, mais envers tout le monde. Mais ma mère en a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Vu comment j'étais avec elle et avec tout le monde, elle avait très peur que je prenne 18 ans de cette manière. Pour elle, si Manu prend 18 ans, il partira et deviendra un délinquant. Sachant que là où on habitait, je ne sais pas si vous connaissez, Vénissieux, les Maguettes, banlieue lyonnaise, il y avait pas mal de délinquants. J'avais l'habitude avec mon frère, quand on rentrait de l'école, de voir des voitures brûlées, des personnes se droguer, de voir du sang. Toutes les fois, on montait les escaliers, ou en tout cas dans les couloirs pour monter dans l'immeuble où on habitait. Mais même si j'étais dans ce contexte, et malgré toutes ces souffrances que j'avais pu vivre dans mon passé, de ne pas avoir un père qui était proche de moi, Dieu a agi, et Dieu est grand. À 17 ans, avant de prendre 18 ans, Dieu a répondu donc à la prière de ma mère, et je me suis converti. Et c'était à Mission 99, en Hollande, dans un grand congrès sur la mission. Et après ma conversion, quand je suis rentré à la maison, j'ai voulu convertir ma mère, quoi. Alors qu'elle était déjà convertie. Hein. Et j'avais tellement soif de Dieu. Et j'ai cherché Dieu, je passais énormément de temps avec lui. Et je voulais toujours plus le servir. Et en continuant à le servir, Dieu m'a donné un fardeau grandissant pour son Église. Pour le servir. J'avais envie de connaître sa volonté, mieux le connaître, lui, savoir ce qu'il veut pour moi. Et donc, Dieu a ouvert les portes miraculeusement à l'Institut biblique de Genève, où je suis allé pendant 4 ans, pour 4 ans d'études. Je n'avais pas d'argent. Hein. Et Dieu a permis que quelqu'un donne une grosse somme pour que je puisse y aller. Et dans toutes ces années à Genève et où j'ai servi dans les églises, vraiment Dieu a marqué ma vie au travers des enseignements de sa parole. Ces années ont marqué ma vie avec les frères, les sœurs et aussi toutes les églises où j'ai pu servir, Dieu a confirmé le ministère de pasteur. Dans toutes ces années, je n'étais pas toujours au top spirituellement, j'ai eu des hauts et des bas des luttes qui me décourageaient énormément. Je vivais des temps de larmes, des temps de solitude, des temps de doute, des temps douloureux. Mais Dieu est quelqu'un d'incroyable parce qu'il m'a jamais abandonné. Il m'a toujours aimé. Son amour n'a jamais bougé d'intensité. Il est total. Même pour toi, quand tu tombes, même quand ton passé est horrible, son amour pour toi reste total. Et quand il a un plan pour toi, il va jusqu'au bout. J'ai dû apprendre, et je continue à apprendre, à le laisser réaliser son plan dans ma vie. Pas en restant passif, pas en vivant dans le péché, mais en l'aimant. Comme le dit ce texte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En vivant dans son intimité, en lui faisant confiance et en obéissant à sa parole, en le servant avec amour, malgré mes faiblesses, Dieu reste ce Dieu qui m'aime et qui veut me transformer. Dieu a un plan pour toi et il va l'amener jusqu'au bout. En regardant l'œuvre de Dieu dans ma vie, surtout dans mes faiblesses, je pleure de joie. Je peux dire que Dieu m'a façonné toujours dans ce même but, ressembler à Christ. Je ne suis pas arrivé, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que dans les faiblesses, ce que Dieu a fait, c'est de continuer à m'amener à ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu retiennes ce matin ceci, que Dieu a ce même plan pour toi, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Si tu es trop confortable dans ce petit monde, dans ton petit monde, Dieu viendra probablement déranger ce calme. Attends-toi à cela. C'est lui qui a choisi l'environnement dans lequel tu es né et où tu évolues aujourd'hui. Dieu, dans son infinie sagesse, sait que tu as besoin de vivre certaines épreuves, d'affronter certains défis pour mûrir et dépasser tes limites. Apprendre à dépendre de lui, ne plus dépendre de toi, mais dépendre de lui seul, à lui faire totalement confiance. Cet emploi que tu détestes peut-être est en train de te former, de développer tes dons, de t'apprendre la persévérance, le sens de la responsabilité. Ces gens qui t'irritent, qui te critiquent, sont peut-être comme des instruments que Dieu utilise pour te rendre davantage comme Jésus-Christ. Et Dieu sait à tout moment ce qui te sera le plus profitable. Ainsi, au lieu de lui demander de changer les circonstances dans lesquelles tu te trouves, dans lesquelles tu te débats, j'ose te dire, remercie-le pour les circonstances, les expériences que tu es en train de vivre et les leçons que tu vas en tirer. Et si tu ne les comprends pas, demande-lui de t'éclairer. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demande-le avec foi, avec confiance. Et puis, rappelle-toi que Dieu, dans tout ce que tu vis, poursuit ce même but, que tu lui ressembles davantage. Peut-être qu'en ce moment, tu es perdu. Tu pries pour quelque chose, mais cela n'arrive pas. Tu perds patience et tu es découragé. Quel que soit ce que tu vis, sache que Dieu t'aime. Il veut ton bien. Dieu s'est engagé à te bénir tous les jours, pas en te donnant de réaliser tes rêves les plus fous, pas en te donnant du succès dans tout, ni en faisant de toi la personne la plus riche du monde, mais en faisant de toi un homme et une femme qui ressemblent davantage à Jésus-Christ. Un homme et une femme qui dépendent toujours plus de Dieu, qui lui font totalement confiance, qui l'aiment par-dessus tout, qui aiment jusqu'à se sacrifier pour les autres. Voilà ce que Dieu veut pour son Église. Voilà ce qu'il veut pour toi. Et il poursuivra ce but jusqu'à ce que tu meures, jusqu'à ce que tu sois auprès de lui. Que tu sois comme Jésus. mais en faisant de toi un homme et une femme, oui, qui le ressemblent. Dieu te dit ce matin, je t'aime. L'œuvre de Christ à la croix est mon engagement à te bénir tous les jours. Mon plan pour toi n'est pas de répondre tout de suite à tes prières, à tes attentes, mais de t'apprendre à me faire confiance pour que tu ressembles plus à Jésus-Christ. Ne t'écarte pas de mon intimité pour recevoir la force dont tu as besoin pour traverser les épreuves. Dieu a un projet pour toi, pour moi. Et Dieu ne peut pas avoir plus grand projet que celui-ci, que nous ressemblions à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prenne un temps dans le silence maintenant pour répondre à Dieu. Si tu sais que tu n'as pas la vie éternelle et que tu aimerais vivre une relation, cette relation avec Dieu, recevoir le pardon de tes péchés, c'est possible maintenant. Je t'invite à t'adresser à Dieu, à lui dire de venir dans ta vie, à le recevoir comme ton sauveur, ton Seigneur. Tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est pour que tu sois pardonné et pour que tu puisses vivre cette relation avec Dieu. Pour nous autres, nous savons que ressembler à Christ exige de renoncer au péché, de renoncer, de vivre pour nous-mêmes, pour dépendre totalement de Dieu. Peut-être que tu tombes dans des travers, des péchés, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être qu'en ce moment, ta relation avec Dieu a perdu sa saveur. Tu n'arrives plus à prier, à vivre la relation avec Dieu. Peut-être que ta carrière, tes souhaits et tes rêves prennent tellement de place que tu as oublié de poursuivre ce but, de ressembler à Jésus-Christ. Quel que soit là où tu en es, dans ta relation avec Dieu, je t'invite dans un moment maintenant de silence à répondre. Et ensuite, je vais prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardon pour nos péchés. Pardon pour notre manque de confiance en toi. Pardon si nous n'avons pas poursuivi ce même but que toi, tu poursuis dans nos vies, de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Aide-nous à croire, quelles que soient les circonstances, que toi, tu permets toutes choses pour notre bien. Aide-nous, Seigneur, à te laisser faire dans nos vies. Que ton plan se réalise et que tu nous gardes vraiment attachés à toi, dans ton amour, l'intimité avec toi. Continue, Seigneur, à nous façonner comme tu le veux. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de nous, pour ta gloire. Et aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de l'importance de ce que nous avons reçu ce matin. Et encore merci de nous aimer autant. Merci pour ta mort à la croix, Jésus. Et merci pour tout ce qui en découle. Nous voulons te dire encore ce matin, nous t'aimons. Viens et remplis nos vies de ton esprit. Au nom de Jésus.